clivage, c'est bon, tout le monde
tweet,
filme tout, en direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais, hello.
L'instant M, ça passe vite et ça en dit.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Trois, une presse indépendante,
formation numérique,
exciting.
Le nez sur l'écran internet.
Une heure et quart d'interview d'affilée, ça n'existe pas, ni en télé, ni en radio, sauf lorsqu'une vedette s'allonge sur le divan de France 3. Oui, mais pour en faire quoi? Et surtout pour faire parler qui? Des personnalités qui se racontent bien, très bien, mais qui forcément se racontent beaucoup et partout. La télévision, même lorsqu'elle pousse les murs et bouscule ses formats, est-elle à ce point prisonnière de ses bons clients? Bonjour Marc-Olivier Fogiel.
Bonjour Sonia.
Psychanalyse cathodique saison 2, là vous démarrez très fort, le retour de Jean-François Copé après des mois de silence, joli coup. Toutefois on se demande, Marc-Olivier Fogiel, un homme politique est-il un people comme les autres?
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Allez, 3 grammes d'actu pour commencer. Canal+ perd une de ses jeunes pousses. Thomas Touroud quitte le groupe Info du Parisien. Touroud qui avait bien bousculé les codes de la présentation du sport à la télé et qui a sans doute été fort mal utilisé quand la chaîne lui a fait faire du divertissement. Le Soir 3 se sent menacé. Tant d'antennes raccourcies, ce journal du soir avait déjà fait savoir qu'il craignait de se voir absorbé par la future chaîne d'infos continue de France Télévisions. Il se plaint aujourd'hui d'être exceptionnellement diffusé en troisième partie de soirée après votre divan, Marc-Olivier Fogiel. La direction de la chaîne en a décidé ainsi. Exclu oblige, vous êtes le premier à faire parler Jean-François Copé. Immense acteur anglais Idriss Elba, vous l'avez peut-être découvert dans la série policière Luther ou lorsqu'il interprétait Mandela au cinéma, car il est noir, Elba, et qu'il s'est adressé au Parlement britannique pour réclamer plus de diversité à la télévision anglaise. Il a, dit-il, été obligé de s'exiler aux États-Unis pour percer. Intéressant, en ce moment même, de l'autre côté de l'Atlantique, acteur et réalisateur afro-américain interpelle et appelle à boycotter des Oscars 100% blancs et souligne que la diversité est bien mieux représentée là-bas à la télé qu'au cinéma. Marc-Olivier Fogiel, 20 divans pour votre première saison, on les a auscultés, ils sont nourris, ils sont très exigeants, ils font réfléchir à tout un pan de la logique médiatique. Alors d'abord, c'est frappant, la plupart de vos invités, y compris les politiques, vous appellent Marco, ce que je ne me permettrai pas.
Bah, d'autant que ma maman m'appelle pas Marco, elle m'appelle Marc-Olivier. Mm-hmm. Donc...
Vous recevez beaucoup d'amis?
Sur le divan, c'est vrai que j'ai reçu pour la première saison des gens avec qui j'étais en confiance parce qu'ils sont tous venus ou quasiment sans promotion, donc c'est rare. Notamment par exemple avec Fabrice Lucchini, quand je lui ai proposé de faire la première émission, il n'avait aucune raison de la faire, donner quelque chose à la télévision. Donc j'ai été spontanément plutôt vers des gens que je connaissais bien.
Et puis vous l'assumez? Quand vous recevez Claire Chazal, quand vous recevez un Thierry Ardisson et que vous avez un long passé,
moi, en
c'est
fait,
dit...
j'assume tout aujourd'hui à 46 ans, donc j'ai aucun problème pour dire les choses.
Oui, ça veut dire que
mes
quand
défauts,
on fait
mes qualités,
de la télé, de la radio depuis presque 20 ans, on connaît tout Paris.
Ben c'est vrai que en fait ça fait même 25 ans et on connaît, on a des amitiés, des inimitiés, mais en tout cas on connaît les gens et les gens vous connaissent, donc c'est vrai que ça facilite les choses. Il y a pas de faux semblants, il y a pas d'ambiguïté, les gens viennent en connaissance
et
de cause.
Et ça risque pas de donner ce petit côté entre soi que redoutent de plus en plus les Français quand ils critiquent les médias.
Je comprends très bien la problématique, ouais. Mais moi ça m'empêche pas d'avoir une exigence. Vous savez, moi j'ai un peu démarré ma vie professionnelle à Canal+, où je faisais une émission sur les médias. Et donc avec un acteur fort des médias, et donc la difficulté, c'était justement d'avoir une distance réelle par rapport à mon employeur, celui qui me payait au quotidien, qui me faisait vivre. Et donc, ce culte un peu de l'indépendance, de la distance, malgré le lien, je crois que c'est dans mes gènes. Donc, je peux, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, poser des questions, me semble-t-il, offensives ou directes quand elles sont légitimes. Et je peux, avec des gens que je déteste, parce que la question ne se pose pas forcément, être plutôt
dans l'empathie,
ouais. Etc. Voilà, j'essaye d'être le plus honnête possible, en me trompant aussi, forcément, comme tout le monde. Régulièrement, mais en tout cas, j'y vais avec une honnêteté, indépendamment de la personne que j'ai en face, en fait.
Alors, vous avez eu en face, ou plutôt allongé juste là, devant vous, Mathilde Seigner.
Elle est autant branchée que vous êtes populaire.
Ouais,
quand elle fait un album,
Manuel,
ça
elle
cartonne.
Elle est très fashion, on est opposés.
C'est ça.
Moi, j'ai des goûts français, j'aime que la chanson française... Je suis pas du tout branchée. La chose que j'ai ratée, moi, j'ai raté pas mal de trucs, mais... J'aurais eu confiance en moi, J'aurais pu mieux m'habiller et en fin de compte, j'aurais eu une autre image. Je me suis quand même pas mal dégradée. Peut-être par... pour pas prendre sa place.
Mathilde Seigné, franchouillarde, assumée et populaire, ça alors. Vous misez tout sur vos interviewés, Marc-Olivier Fogiel. Des gens qui parlent bien, des gens qui se donnent, vous l'avez dit. C'est ce que la télé et la radio appellent des bons clients, c'est ce que toutes les émissions recherchent. Et du coup, on a la sensation, comme téléspectateur, d'entendre toujours les mêmes.
Mais est-ce que vous avez eu l'impression d'entendre la même chose surtout? C'est pas la... Moi, ma difficulté, c'est pas les mêmes. Parce que d'ailleurs, après, j'ai des contre-exemples, mais commençons par Mathilde Seigné, puisque c'est l'extrait que vous avez choisi, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais moi, ma difficulté, justement, d'avoir quelqu'un qu'on voit beaucoup, même si Mathilde Seigné s'est fait plus rare pour...
Ces dernières années,
parce qu'elle s'auto-soulait, comme elle le disait elle-même. Mais moi, j'ai pas de difficulté d'aller prendre quelqu'un comme bientôt Cyril Hanouna, qu'on voit partout et peut-être trop, parce que mon enjeu, il est encore plus fort. Est-ce que je vais arriver à montrer autre chose d'eux? Je leur demande pas de me raconter quelque chose, de me raconter quelque chose qui leur est arrivé dans leur vie, mais j'essaie de trouver une cohérence dans tout ça pour faire émerger une personnalité. Donc leur vie, c'est leur vie, ils vont pas s'en inventer une autre sur le divan. En revanche, trouver des significations dans tout ça, bah, c'est ce que je cherche quand c'est réussi à faire émerger. Et dans les 20 émissions qui sont passées, j'ai l'impression, de façon très présomptueuse, que c'est plutôt réussi. Forcément, il y a des déceptions de temps en temps, il y a des moments où on va pas au bout des choses, etc. Mais globalement, j'ai l'impression que ces gens-là se sont montrés un peu autrement. Et puis, il y a aussi évidemment des contre-exemples, heureusement, et celui qui l'illustre le plus, c'est Alexandre Jolien, ce philosophe donc né avec le cordon ombilical entouré autour du cou et qui a des difficultés d'élocution, des difficultés pour se mouvoir, etc. Quand j'ai dit à France 3 que j'avais envie de le recevoir, ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont dit... Tu as carte blanche, on te fait confiance. Si tu penses pouvoir en faire quelque chose avec plaisir, pour moi, très sincèrement, ça reste le moment le plus fort. D'ailleurs, j'en pleurais à l'antenne. Et c'est le seul montage que j'assume pas totalement parce que j'aurais préféré, pour me préserver, Rachel Kahn, qui monte extrêmement bien cette émission, a enlevé.
Qui est votre productrice.
Qui est ma productrice. On coproduit l'émission ensemble et elle en charge notamment le montage. Pour me préserver, a enlevé des moments où carrément j'étais en larmes totalement par ce qu'il se disait. Moi, je les aurais assumées totalement, ces larmes-là. Et donc, Alexandre Jolien. C'est un peu le contre-exemple de ce sur quoi vous pointez le doigt. Une heure et quart à la télévision, tout seul sur un divan, on m'a dit « mais bon, t'es dingue ». Et je crois que je suis dingue.
C'est vrai. Et en même temps, quand on regarde les 200 émissions d'Henri Chapier, donc qui est le créateur du divan à partir de 87, on comprend quand même très bien que c'était une autre époque. On comprend très bien que les gloires médiatiques qui sont passées à la question par Chapier, ceux qui vendent des disques, ceux qui font venir des gens au cinéma, sonnent beaucoup moins creux. Et même les politiques, on a des accents, il y a des personnalités, il y a des parcours détonnants, il y a beaucoup moins de com, il y a plus de chair, il y a moins de contrôle, il y a plus d'accidents. Et on se demande si la promo a pas totalement tué l'exercice.
Je crois pas, franchement je crois pas, Sonia. Moi j'ai beaucoup revu les émissions d'Henri. Henri, je le consulte régulièrement.
Il est,
parce que j'ai pas voulu faire l'émission, même si le droit me donnait la possibilité, puisque c'est une émission de France 3, sans le faire sans son accord, donc j'étais le voir. Et puis je trouvais assez logique de lui donner une sorte de rôle de consultant, donc il est là pas loin. Moi j'ai beaucoup revu ses émissions. Justement, l'émission d'Henri, à l'époque, c'était une autre époque, elle faisait 26 minutes, et il cherchait pas, en fait, une cohérence. Au contraire, lui, il faisait raconter ses anecdotes à l'époque qu'on n'avait pas beaucoup lu. Donc, en fait, c'était une émission où les gens racontaient des moments de leur vie de façon anecdotique et très sympathique. C'était super, autrement, d'ailleurs, je m'en serais pas inspiré. Mais moi, finalement, je fais complètement autre chose. Donc, j'ai pas l'impression que l'époque de la promo a tué. Mais c'était pas, on n'avait pas du tout la même démarche, en fait. On n'allait pas du tout chercher la même chose.
Et puis, il y avait beaucoup moins de chaînes et beaucoup moins de concurrence entre les chaînes.
Évidemment.
Et là, on a vraiment l'impression, et c'est assez paradoxal, que plus l'offre s'élargit, et en fait, plus elle se standardise, et donc plus c'est difficile de trouver des formats qui ne sont pas les mêmes que partout ailleurs.
Bah, moi, j'ai en tout cas un format qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Nulle part dans le PAF.
Et avoir pas le besoin de remplir le vide par des artifices qui pourraient être efficaces en termes d'audience, un comique qui viendrait faire quelque chose, des séquences.
Enfin, voilà. D'ailleurs, vous assumez parfaitement les silences dans le montage de Rachel Kahn.
Mais j'adore ça, moi. J'adore ça. Et donc,
dans l'interview de Frédéric Mitterrand, il y a des silences.
Énorme silence.
Énorme
silence. Donc,
jamais à la télé, on voit ça.
Donc voilà, j'ai une petite case privilégiée, j'en profite totalement. Et j'ai l'impression que, justement, c'est atypique et c'est pas écrasé par le rouleau compresseur de la promotion.
Chapier étiez, voilà. Des interviews en anglais, ils recevaient Spike Lee, par exemple.
Je suis incapable de faire ça.
Non, vous pourriez tout à fait avoir ce qu'on appelle un traducteur simultané.
Oui, mais là, franchement, l'émission, j'avais sous-estimé la difficulté de la faire l'année dernière quand j'étais venu vous en parler avant même d'avoir commencé, parce que ça nécessite un niveau de concentration absolument incroyable, parce qu'en fait, la parole ne vous est pas du tout destinée. L'invité donc parle face à lui-même, vous n'êtes pas en face.
Vous êtes dans son dos.
Vous êtes dans son dos, et cet artifice d'interview, vraiment, j'ai pu mesurer, et c'est en ça d'ailleurs que je remercie Henri de l'avoir inventé, c'est une concentration...
Et le docteur Freud aussi, accessoirement.
À la télévision, parce que j'ai pas la prétention du tout de faire une analyse. Il faut une concentration absolue pour choper la parole qui ne vous est pas destinée, et à un moment donné, s'insérer dans cette discussion dont vous n'êtes pas l'interlocuteur dans la réalité.
Donc, c'est ça, bref, donc un traducteur
si
simultané
un traducteur
entre vous
plus,
et l'invité.
C'était possible justement du temps éventuellement d'Henri Chapier, parce qu'il allait chercher donc des récits de moments de vie. Moi, c'est pas ce que je cherche à faire. J'essaye de m'insérer dans justement les silences pour essayer de comprendre une personnalité et mettre en perspective. Si en plus il y avait une voice-over au-dessus, je serais complètement perdu et épuisé.
Voilà, formidable. On retourne sur le divan. Et cette fois, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Je pense que les hommes, je dis bien les hommes, hein, genre masculin, sont assez obsédés par la maîtrise du sens de leur vie. Peut-être parce qu'elle leur paraît plus incertaine qu'à leur compagne. Et bon, je sais qu'en étant là, il y a quelque chose d'un peu narcissique et vaniteux à vouloir fabriquer mon histoire de peur qu'elle ne m'échappe.
L'Instant M sur France Inter.
Marc-Olivier Fogiel est mon invité ce matin. C'est un truc de mec de refaire l'histoire de sa vie. 6 femmes sur 20 invités.
Ben oui, ben c'est pas mal, non? Non, c'est pas un truc de mec. Non. Moi, alors, pour tout vous dire, aussi bien à la radio qu'à la télévision, je me préoccupe pas du tout de ce qui peut faire politiquement correct. Je vais là où mon centre d'intérêt va, et je me dis pas, au fait, combien j'ai fait de mecs, combien j'ai eu de filles, dans les débats que je peux animer par ailleurs, par exemple, à la radio.
Sur
RTL. Je me dis pas, ah zut, ce soir j'ai qu'un plateau de mecs ou qu'un plateau de filles, je compose sans ce... Ou est-ce qu'il y a un noir ou pas du tout, jamais. Mais on pourrait se poser cette question-là sur les 20 que je viens de faire. Je crois pas d'ailleurs avoir fait quelqu'un issu de la diversité, comme on dit maintenant, de façon trop politiquement correcte. Ça viendra certainement... Je réfléchis pas dans ces termes, en fait.
Alors, en même temps, je reviens à ce que disait Jean-Luc Mélenchon, à ce que vous disiez vous-même avant. Il y a quelque chose qu'on comprend très très bien en regardant votre émission, c'est que se raconter, ça n'est pas du tout la même chose que se confier.
Oui, je crois, c'est très différent, se raconter et se confier. Et là, j'ai un peu l'impression que les gens se confient plus qu'ils ne se racontent dans l'émission. Et ça fait toute la différence, je crois. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, finalement.
Oui, ce qui vous intéresse. Et en plus, on sent bien que finalement, c'est assez peu la vie de votre invité, mais plutôt ce qu'il en tire. Et du
Exactement.
Coup, voilà, ce qu'il en tire et ce que vous, vous voulez en tirer.
Exactement.
Parce que il y a deux récits et il y a une autofiction et celle que vous en faites qui se croisent et
Totalement.
Qui s'interpénètrent, et c'est ça qui est intéressant.
Exactement.
Quentin Dupond-Moretti n'a pas une vie si trépidante que ça. En même temps, on est tout le temps dans la réflexion sur ce qu'a été la France à une époque, ce qu'elle est devenue, ce qu'a été une génération, ce qu'elle est devenue, ce qu'est la mémoire collective. Et ça, on s'y attendait pas tellement, en fait, avant le divan.
Et moi, c'est ce que je découvre aussi, finalement, en le faisant, quand ça fait écho comme ça, aussi à la société. Donc j'aime beaucoup ça. Et finalement, j'y suis pas allé en toute franchise l'année dernière, avec cette idée en tête. Et assez vite, j'ai vu que...
C'est ce qu'il en sort. Vous assumez très bien vos silences, vous l'avez dit. Vous êtes plutôt dans l'effacement au profit de vos invités. Quand c'est Loukini, c'est pas un problème. Quand c'est un élu, ça pose un certain nombre de questions. On a vu les invités que vous privilégiez. Je vous repose la question que je vous ai annoncée d'entrée de jeu. Un homme politique est-il un people comme les autres ?
Moi déjà, j'aime pas le terme people, je dirais une personnalité comme les autres, oui, parce que il est dans la sphère médiatique, dans la sphère publique, et on a envie de le comprendre, donc pour moi, il est comme un autre. Forcément, il y a des questions d'actualité, notamment avec Copé, qui se posent, plus qu'avec Luchini, où évidemment, on n'est pas du tout dans ce registre-là, donc je suis obligé d'un tout petit peu modifier le curseur. Évidemment que je suis obligé de parler à Jean-François Copé de l'affaire Big Malion, mais j'essaye de l'aborder différemment, pas sur comme un journaliste politique le ferait, ou pas comme j'aurais pu le faire à la radio. Mais
bah justement, c'est la question que je me posais, c'est-à-dire, est-ce que cet exercice du divan est compatible avec votre carte de presse ? Est-ce qu'il est compatible avec l'exercice que vous menez tous les soirs sur RTL, main dans la main avec la rédac.
Oui, bien sûr. J'ai l'impression de faire j'ai une démarche journalistique en allant interviewer ces gens-là, en essayant de les comprendre et en essayant d'aller trouver un sens dans leur vie. Et sur cette affaire Big Malion, mon angle d'approche, c'est lui, puisque finalement, s'il a donc été trahi par ses proches et des gens à qui il avait fait confiance depuis toujours, puisque c'est des amis, presque des amis, plus que des amis, puisqu'il y en a même certains qui habitaient dans son appartement, ça avait fait polémique. À l'époque, Bastien Milot, patron de Big Malion, surtout, avait été logé dans l'appartement de Copé quand lui-même avait un appartement de fonction. Bon, bref. Donc, mon angle d'approche, c'est pourquoi il choisit aussi mal ses proches. Est-ce que c'est pas, ça ne le ramène pas, lui, à des questions qui se posent, ok, à supposer qu'il n'ait été au courant de rien dans les fausses factures.
À supposer qu'il n'ait été au courant de rien. Donc, vous n'êtes pas non plus dans la contradiction. Là, mais vous le seriez sur RTL. Et Jean-François Copé, il choisit votre divan sur France 3, il ne choisit pas votre interview sur RTL.
Si, de la même façon, parce que quand vous allez l'entendre sur RTL ou sur France Inter, où il viendra, forcément, ça sera, vous verrez, le même type de question, puisque aujourd'hui, il n'est pas poursuivi, il n'est pas mis en examen, la justice ne va pas lui chercher des poux dans la tête. Si, non, j'y vais alors pour le coup sur les faits avec la même exigence, puisque ça, on ne se refait pas, et sur les faits, aujourd'hui, tant mieux pour lui, mais il est présumé innocent, il n'est même pas mis en examen.
Avec cette idée, quand même, vous n'êtes pas naïf, et le téléspectateur aujourd'hui ne l'est plus du tout, que l'enjeu d'image pour un homme politique fait partie intégrante, indissociable de sa carrière politique. Et que c'est un exercice d'image que de venir sur votre...
Complètement, mais alors, si vous voulez, ça vaut pour Jean-François Copé, comme ça vaut pour tous les autres.
Pour Mélenchon, pour Anne Hidalgo.
Non, ça vaut aussi...
Comme disent les journalistes, d'un déficit d'image.
Mais alors, je vous parle plus précisément après de Copé et des politiques, si vous voulez, mais plus globalement... Quand quelqu'un vient s'allonger sur ce divan, on voit dans une émission de télévision, il fait de la communication, comme j'en fais ce matin en venant vous vendre mon émission ici avec plaisir. On est dans un rapport de communication. Je suis évidemment pas dupe que les gens qui viennent, globalement, viennent faire de la communication. Et Copé, évidemment, vient faire de la communication. Voilà. Après, mon enjeu, c'est est-ce que j'arrive ou pas à faire une bonne émission et d'en tirer quelque chose et de montrer quelque chose de lui. Soit... je n'y arrive pas, auquel cas je me suis planté et c'est raté quoi qu'il arrive. Soit j'obtiens quelque chose de Jean-François Copé et puis après, il y aura des gens qui vont le trouver forcément plus sympathique. Tant mieux pour lui, c'est pas mon sujet. Et peut-être des gens d'ailleurs qui vont le trouver encore moins sympathique.
Encore plus antipathique.
Tant pis pour lui et c'est non plus pas mon sujet. Et évidemment, je sais qu'il vient faire de la communication comme Jean d'Ormesson qui vient vendre son livre.
Et qui lui s'est beaucoup raconté partout. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mais sur les 20 premières.
J'en obtiendrai autre chose de lui.
On va voir, c'est le défi.
C'est le défi, ouais. Mais encore une fois, quand les gens se racontent beaucoup, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas une facilité, c'est une difficulté.
Ah non, oui,
c'est
faut vraiment relever le gant.
Parce
que
voilà,
la barre est beaucoup plus haute.
Voilà, c'est une difficulté, justement.
Alors justement, si vous faites le bilan des 20 premières, sur qui vous vous êtes cassé les dents et qui vous a emmené là où vous ne vous attendiez pas, sachant que ces émissions sont énormément préparées en amont.
Je voudrais pas que ça soit un raccourci médiatique et qu'on dise Nicolas Bedos l'a déçu, etc. Parce que l'émission était très intéressante ici. Mais je me suis cassé les dents, je trouve, sur Nicolas Bedos parce que il est venu avec toute sa sincérité. Il a beaucoup donné dans l'émission. Mais moi, je n'ai pas appris grand-chose. Je savais à peu près déjà tout ce qu'il a bien voulu dire. Donc, le problème ne vient pas de lui, mais vient de moi. Je crois que je n'ai pas su lui faire dire plus que ce qu'il avait déjà dit. Plutôt comprendre mieux ce qu'on ne savait déjà, plutôt. Voilà. Je n'ai pas mieux compris Nicolas Bedos avant qu'après. J'avais en lisant beaucoup de papiers sur lui, la façon dont il s'était déjà beaucoup raconté, beaucoup écrit et avec talent. Je n'ai pas mieux appris après. C'était un bon moment. C'était un bon moment de télévision. J'ai passé...
Qui vous a coupé l'herbe sous le pied? Qui vous a surpris?
Qui m'a surpris? Je vais vous dire Claire Chazal, en fait.
Connaissez, qui est une amie.
Qui est plus qu'une amie, qui est la marraine de ma fille. On habite dans la même rue, on y passe pas un jour, on se parle pas quatre fois. Enfin, mais l'honnêteté avec laquelle elle s'est livrée, et je pensais pas qu'elle pourrait donner autant dans le cadre d'une émission de télévision, en fait.
Merci Marc-Olivier Fogiel.
Merci Sonia.
Le divan, 22h35, légèrement avancé par rapport à son horaire habituel.
Ce soir donc on passe avant
Jean-François Copé avant le soir 3.